Une heure en France. Frédéric Le Ternier, Denis Farou sur France Bleu.
Qui ne connaît pas Frédéric Auguste Bartholdi, parce que c'est le créateur de la si célèbre Statue de la Liberté, connue dans le monde entier. Mais ce n'est pas son seul tour de force. Il est aussi celui qui a réalisé le monumental Lion de Belfort, rénové il y a peu, entre autres.
Et la place, la statue de la place monumentale des terreaux à Lyon, Frédéric, celle qui a été déplacée il y a quelques années pour construire un souterrain, vous n'en parlez pas.
D'accord, non, mais vous en parlez, vous le faites très bien. Ce que l'on sait moins, c'est que Bartholdi, il est né à Colmar, que sa maison est devenue musée depuis 1922. Alors pour en apprendre davantage sur la vie de ce génie, nous sommes avec la directrice du musée. Bonjour Isabelle Breutigam.
Bonjour.
Bartholdi est donc né à Colmar. Sa famille, c'était quoi? Des gens relativement aisés?
Oui, tout à fait. Bartholdi est né à Colmar donc en 1834 dans une famille aisée de la bonne bourgeoisie colmarienne. Mm-hmm. Mais aussi sa maman était en fait originaire de Ribeauvillé, donc c'est vraiment un enfant du terroir.
Et où est-ce qu'il a étudié ensuite, aux Beaux-Arts?
Alors, en fait, il n'a pas étudié aux Beaux-Arts. Il est arrivé très jeune à Paris, adolescent. Il a fait des études déjà au lycée Louis-le-Grand. Mmh. Et ensuite, il a été dans l'atelier d'un artiste très célèbre à l'époque qui s'appelait Harry Schaeffer, qui était un excellent portraitiste. Et c'était à l'époque du Second Empire et qui peignait toutes les personnes importantes de l'époque. C'est Harry Schaeffer qui l'a appris, en fait.
Alors, il est venu à Paris, mais ce natif de Colmar a eu la première commande, on va dire première commande d'envergure, par sa ville natale, Colmar.
Tout à fait. Toute sa vie, Bartholdi est resté très très attaché à sa ville. Et il y a de nombreuses statues de lui à Colmar, pratiquement toutes d'ailleurs. Et sa toute première commande, effectivement, c'est le général Rapp. Il a à peine 20 ans, en 1855, général Rapp, qui est un héros aussi de la ville de Colmar.
Il a participé à la guerre contre la Prusse, la guerre de 70, ça l'a fortement marqué.
Voilà, tout à fait. Donc, Alsacien très très attaché à son pays, mais très attaché à la France, avec la double culture qu'ont tous les Alsaciens. Il parlait aussi très bien l'allemand. Mm-hmm. Mais lorsque la guerre se déclare, bien sûr, il choisit la France et essaye de sauver sa petite patrie. Malheureusement, ça ne marche pas.
Alors, on a découvert ou redécouvert, parce que parfois on oublie certaines choses, que son œuvre la plus célèbre, la Statue de la Liberté installée à New York, a été construite à Paris, en fait. Et puis on l'a transporté là-bas.
Tout à fait, tout à fait. La Statue de la Liberté, donc, il vivait à Paris, ses ateliers étaient à Paris, et la Statue de la Liberté a été inventée, conçue et construite à Paris dans les ateliers Gaget et Gauthier, rue de Chazelles.
Mais qui lui avait passé la commande de cette statue, Isabelle?
Alors, en fait, ce n'est pas une commande. C'est une initiative qui est portée à la fois par Bartholdi, l'artiste, et par tout un groupe, c'est l'Union franco-américaine qui, pour le centenaire de l'indépendance américaine, souhaitait offrir, créer un monument commun pour rappeler l'amitié franco-américaine qui était née avec Lafayette et Washington lors de la guerre d'indépendance américaine.
Et ce qui est incroyable, c'est que c'est lui qui a choisi l'emplacement de la Statue de la Liberté à New York. Peut-être elle se serait trouvée ailleurs, on n'en aurait pas entendu autant parler de cette statue.
Mais c'est ça son génie, c'est qu'à chaque fois, il trouve un emplacement, c'est comme à Belfort, le Lion de Belfort, qui est aussi un emplacement extraordinaire. Et en fait, donc, Bartholdi part aux États-Unis pour arriver à persuader les Américains de cette idée. Et il arrive à New York sur le bateau, il voit l'île de Bedloe à l'époque, qui est aujourd'hui Liberty Island, et il sait tout de suite que c'est l'endroit où il va installer sa statue.
Et pour ceux qui ne vont pas à New York, eh bien, il y a quelques répliques de Statue de la Liberté. Il y en a une dizaine, je crois, en France, à Paris, et puis jusqu'à dans des petits villages.
Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a une douzaine qui datent de l'époque de Bartholdi, mais il y en a aujourd'hui beaucoup plus, bien évidemment. Et effectivement, il y en a aussi deux à Paris, puisqu'il y en a une au musée d'Orsay qui était autrefois au musée du Luxembourg, et puis la Statue de la Liberté de l'île aux Cygnes, qui est quand même un original de l'époque de Bartholdi et qui a même été installée avant l'installation de la Statue de la Liberté à New York.
Pas très loin, justement, de la maison de la radio à Paris, où nous nous trouvons.
Voilà, tout à fait.
Elle tourne le dos à la Tour Eiffel, hein, mais elle n'est pas très loin de la Tour Eiffel.
Et elle tourne le dos à la Tour Eiffel avec laquelle elle a un lien très fort.
Eh ben oui.
Sans la Statue de la Liberté, il n'y aurait peut-être pas de Tour Eiffel, hein, puisque la structure interne a été faite par le même ingénieur de Gustave Eiffel. Que cette pré-structure interne a peut-être donné l'idée de cette Tour Eiffel.
Isabelle Breutigam, j'ai envie de vous parler maintenant du Lion de Belfort. À oui. l'origine, c'était la commande d'une simple statue. Et puis, Bartholdi, là aussi, il a vu les choses en très grand.
Et voilà, tout à fait. Hein, la ville de Belfort souhaitait un monument pour rappeler sa résistance courageuse contre les Prussiens de nouveau. Mais la ville de Belfort imaginait effectivement un petit monument sur une place. Et Bartholdi arrive avec cette idée extraordinaire de ce lion colossal qu'il va installer au pied de la citadelle de Belfort sur ce rocher.
Et cette statue est en pleine rénovation, hein. On fait une rénovation tous les 10 ans. Eh bien, c'est en ce moment et ça va durer encore quelques semaines.
Et elle est classée monument historique très rapidement après sa construction. Isabelle Breutigam, on peut pas parler de tout, mais je peux vous dire qu'on a sacrément envie d'aller découvrir le musée Bartholdi à Colmar. Vous nous avez donné envie aujourd'hui.
Avec grand plaisir, on vous attend avec grand plaisir.
Merci pour cet aperçu de la vie de Bartholdi aujourd'hui dans Une Heure en France, en tous les cas.
C'est moi qui vous remercie.
Bonne journée Isabelle Breutigam, merci beaucoup.
Merci à vous aussi, au revoir.
France Bleu, Une Heure en France.
Oui, parce qu'on est quand on est dans le train, le canapé comme Muriel à l'instant, ou à la plage avec notre grille de mots fléchés sur les genoux, eh bien oui, on se pose rarement la question de savoir d'où ils viennent, qui les a créés. Eh bien c'est ce que nous vous proposons ce midi avec une société spécialiste des jeux de chiffres, de lettres et de logique.
Comment crée-t-on des mots fléchés qui sont ceux qui nous divertissent, font travailler nos neurones et nous agacent aussi un peu parfois quand on ne trouve pas.
La co-dirigeante de RCI Jeux est avec nous. Bonjour Florence Alzon.
Bonjour.
Alors, on n'est pas des grands spécialistes de mots fléchés avec Frédéric. En revanche, on est très joueurs. Est-ce que vous auriez une définition pour nous?
Comme ça, la demi-temps blanc.
Il faut se mettre en danger. Il faut sortir de votre zone de confort.
Vous avez bien
Frédéric.
Raison de me le dire, Denis. Alors, Florence Alzon.
Ah oui. Une définition là, uniquement pour vous deux.
Oui.
Écoutez, je vous propose l'image sans le son ou le son sans l'image.
Combien de lettres?
En 5 lettres.
C'est radio, j'ai trouvé avant Denis.
Voilà.
Je suis bien sortie de ma zone de confort là.
Florence Alzon,
vous êtes bien partie.
Florence Alzon, il y a donc des salariés qui arrivent chaque matin au travail chez vous et qui créent des mots fléchés pendant 6, 7 ou 8 heures.
Alors, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais on a surtout des auteurs qui sont pas spécialement salariés. Chez nous, les salariés sont principalement des gens qui mettent les jeux en maquette, qui créent certains jeux de logique ici sur place. On a évidemment un ou deux auteurs sur place, mais on fait appel à des auteurs indépendants qui nous fournissent des grilles de mots fléchés.
Et est-ce qu'il faut... Pardon, allez-y, terminez.
Excusez-moi. Et nous les mettons en forme, c'est-à-dire nous les mettons ce qu'on appelle en maquette pour les livrer à la presse et nous avons des correcteurs qui les revoient pour les livrer corrigés, n'est-ce pas? Et ces pages sont préparées pour être ensuite mises sur les serveurs d'impression des titres pour lesquels nous travaillons.
Mais est-ce qu'il faut avoir une tournure d'esprit particulière pour réaliser des grilles comme ça de mots fléchés?
Ah oui, moi je pense que effectivement il faut avoir une tournure d'esprit. Il faut aimer les mots. Déjà, il faut aimer les mots. Être particulièrement féru de langue française, de toutes ces expressions idiomatiques, parce que on joue sur les définitions, sur les sens des mots, premier, deuxième, troisième sens, et sur les expressions que l'on a l'habitude d'utiliser nous français.
Ouais. La définition que vous avez donnée, que Frédéric a trouvée tout à l'heure, était quand même très très simple. Vous n'en avez pas une autre?
Non, non, rajoutez pas.
Je vais vous en donner une plus corsée. Une qui touche à la culture. Elle est simple.
Ouais.
Une provençale native de Strasbourg.
Provençale.
Combien de lettres? Combien?
12 lettres.
12 lettres?
12.
Ah, vous vouliez que ça soit corsé.
Provençale. Native de Strasbourg.
C'est là, terrible parce qu'il y a plein de gens à la maison qui ont déjà trouvé.
Oui,
et nous, on en galère.
C'est vraiment des nullards à la radio.
Allez-y, cherchez Denis, je vais reposer une question à Florence pendant ce temps-là. Dites-nous, est-ce que le plus dur, ce sont les mots croisés par rapport aux mots fléchés? Parce qu'on a cette idée-là, mais est-ce que c'est vrai ou pas, ça, Florence?
C'est vrai et pas vrai. Ceux qui aiment beaucoup jouer avec les mots préféreront les mots croisés. Parce que la définition étant un petit peu plus longue, on a le temps de la tourner d'une façon plus subtile. Un mot fléché, la définition doit tenir dans une petite case, généralement sur une ligne ou deux lignes. Donc, ça peut sembler plus facile, mais parfois, un synonyme, c'est difficile à trouver.
Évidemment.
Ouais. À ce propos, on va jouer la franchise. Hein. On n'a pas trouvé pour la Provençale née à Strasbourg, mais on nous a soufflé dans les oreilles parce que on a un réalisateur
qui est beaucoup plus intelligent que nous. Faut bien
ça doit être ça. C'est la Marseillaise.
C'est ça.
Ah, bravo à notre réalisateur Christian Pathé qui a toujours les bonnes réponses. Dites-nous, est-ce que ça marche toujours autant qu'avant, les mots fléchés, les mots croisés? On en parlait avec Muriel qui a joué avec nous il y a quelques minutes. Surtout l'été, c'est vrai?
Surtout l'été, oui. Mais toute l'année, des gens aiment jouer. Ça fait partie des rendez-vous, par exemple avec son petit café. Les personnes seules, les personnes malades. Lorsqu'on a plus de temps, quand on est à la retraite, en général, on aime jouer. Mmh. Et puis l'été, effectivement, c'est une période où on privilégie le délassement et puis faire travailler ses entre guillemets ses neurones. Mmh. Et ben c'est toujours bon.
Florence Alzon, il vous arrive vous de faire des mots fléchés ou alors quand vous quittez le travail?
Surtout pas.
Ça suffit vraiment.
Ben oui, et figurez-vous que j'aime beaucoup en faire.
Ah ouais.
Surtout que moi, je n'en crée pas spécialement, mais les auteurs en font et j'aime bien être surprise.
Et puis,
je vais vous en reposer une d'ailleurs qui m'avait beaucoup amusée.
Ouais.
On peut s'y faire coiffer en 6 lettres.
On peut s'y faire coiffer en 6 lettres.
Chez le coiffeur.
Ah non, c'est trop facile.
Non, c'est trop facile.
Christian Pathé. c'était pas coiffeur quand même.
Non, c'est pas coiffeur.
6 lettres, on peut s'y faire coiffer. Il y a pas une autre.
Il y a un jeu
de mots magique.
Il y a de l'humour. Comment?
Oui, il y a de l'humour.
Ouais.
Bon, allez, je vous donne la réponse.
Oui, allez-y, Florent.
Oui, parce qu'on est là.
Ah, au poteau! Ah, bah oui, bah, bien sûr, d'accord.
À se faire coiffer au poteau.
Au poteau. Très bien, bien joué. Bien, merci pour ces défis, Florence Alzon. On voit qu'on n'a pas le niveau avec Denis. Hein.
On peut rendre à César? C'est Laura au standard. Qui a dit poteau.
C'est Laura et puis Florence Alzon qui nous a donné la réponse. Merci beaucoup Florence. Et on vous souhaite un bel été plein de mots fléchés, de mots croisés et de mots mêlés.
Je vous remercie.
À bientôt, bonne journée.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Une heure en France. Frédéric Le Ternier, Denis Farou sur France Bleu.
À 13h44, nous sommes en Bretagne pour rencontrer une sœur qui a en sa possession des documents ayant appartenu à une famille de notables de Perpignan, les Tatsou, et ils remontent au Moyen-Âge et à la Révolution.
Elle voudrait prendre contact avec les descendants. Nous, si on peut l'aider avec la radio, on veut bien.
Elle passe par Une Heure en France ce midi. Bonjour sœur Bénédicte.
Oui, bonjour chère madame. Alors, je tiens à préciser toutefois que ça y est, j'ai contacté, beaucoup de gens sont rentrés en lien avec moi, et à peu près une quinzaine, et depuis j'ai constaté que ces documents provenaient de nos ancêtres, d'astu, et mon but est non seulement de les étudier, mais ensuite de les restituer aux archives départementales une fois que je leur aurais fait cracher tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils recèlent, tout ce qu'ils cachent.
Alors ma sœur, commençons par le commencement. Est-ce que vous avez des liens avec cette famille de Perpignan?
Bien sûr, on en a beaucoup puisque mon nom de famille est Berge et que la famille a rayonné jusqu'à la Révolution et même après à Collioure et à Perpignan, et il y a eu une alliance Berge-Tastu. Et c'est pour cela que ces documents ont échoué dans notre famille.
Mais quand vous dites que ces documents ont échoué dans votre famille, comment vous en avez pris possession?
Eh bien, quand j'étais jeune, on m'avait montré cette caisse en bois qui est là devant moi, dans laquelle il y avait plein de parchemins médiévaux. Et j'avais été intriguée. Et tout récemment, comme j'ai fait de nombreuses recherches historiques, eh bien, j'ai demandé où était passée cette caisse en bois. Et figurez-vous que mes parents ont d'abord dit « Mais on ne sait pas, la caisse en bois, non, on ne voit pas, on ne sait pas, non, tu rêves, elle n'existe pas. » Et en fait, alors j'ai insisté, ce qui fait que ça y est, elle a émergé de leur recherche une caisse en bois où les parchemins sont en état impeccable et où, voilà, je vais bien sûr, là encore, les restituer aux archives départementales. Parce que Parce que donc ils appartiennent donc aux communes des Pyrénées orientales.
Mais qu'est-ce qu'il y a sur les parchemins précisément?
Voilà, je vous dis que qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a un ancêtre à la Révolution qui a profité de l'aubaine où il y avait ce bazar, ce désordre de la Révolution, et il a récupéré tout un tas de parchemins dans les communes avoisinant Perpignan.
Mais ma sœur, qu'est-ce qu'il y a sur les parchemins? Sont quoi des extraits de naissance?
Le plus souvent, des contrats entre communes, des règlements, des accords, on va dire. Voilà. Qui quelquefois sont encore en usage. D'où l'intérêt de les avoir sous les yeux et de pouvoir, en quelque sorte, faire leur histoire.
Sœur Bénédicte, vous êtes passionnée d'histoire ou et de généalogie? On a l'impression.
Exactement. Oui, tout à fait.
Est-ce que vous avez mis du temps à reconstituer ce puzzle?
Alors, oui, il faut mettre du temps, parce que chaque document, en quelque sorte, est un trésor, et il faut réordonner, redonner leur valeur à chaque phrase. Vous le savez, la recherche historique n'est jamais achevée. Un document va rectifier un autre, sans tomber dans le relativisme. Eh bien, chaque document réhabilite ou atténue le précédent.
Et quel est le résultat des contacts que vous avez pris, dont vous nous avez parlé tout à l'heure il y a quelques minutes?
Oh, eh bien, c'est touchant parce que chaque personne est vraiment attachée à ses ancêtres. Chaque personne, vraiment, ça compte pour elle. Et je n'ai d'ailleurs pas fait le tour de tout le monde. Il y a des personnes qui exigent en quelque sorte que je les contacte et je vais le faire. Voilà, je vais le faire. Dès que j'aurai un peu de temps, je vais prendre cette richesse d'une conversation.
Mais vous avez des indices, quelque chose au départ pour contacter ces familles?
Bien sûr, ils m'ont donné leur adresse mail, du coup je peux les contacter et bien sûr avec quelquefois le numéro de téléphone.
Alors nous on voulait vous aider avec la radio, mais vous avez fait tout le travail ma sœur, c'est terminé là cette histoire.
Oui, c'est vrai, mais vous voyez, j'en profite pour dire que tout cela, ça nous rend très très solidaires les uns des autres. Ouais. En fait, vous voyez, la devise de notre République, fraternité, égalité et...
liberté. Liberté.
Voilà, je ne trouve plus le dernier terme, mais en fait, on est tous vraiment frères les uns des autres.
C'est joliment dit.
Les gens sont attachés à tout cela, en fait, ça nous rend vraiment, ça permet de comprendre les personnes, ça permet d'accroître notre expérience, ça nous sensibilise à tout ce qui est positif, et en fait, ça renforce aussi notre courage, notre vertu.
Nous, on est frères et sœurs, ma sœur.
Bien vu, Frédéric. Sœur Bénédicte a retrouvé depuis la Bretagne des familles de Perpignan pour leur remettre des documents qui datent de plusieurs siècles.
On était ravis de discuter de votre passion, de cette histoire de généalogie et d'histoire avec vous, Sœur Bénédicte. Merci beaucoup.
Merci infiniment à l'un et l'autre. Et puis, très belle journée, puisque cela se termine maintenant.
Oui, c'est terminé, voilà, mais vous pouvez rester à l'écoute.
Au revoir à chacun des auditeurs. Et
merci.
Puis, voilà, je les conforte dans leur recherche historique et généalogique, parce que la transmission et l'intériorisation de ce que nous sommes est un très très enrichissant. Chacun de nous est un trésor.
On garde le message.
Bonne journée en Bretagne, Sœur Bénédicte.
À bientôt, bonne journée, Sœur Bénédicte. Au revoir.
Bonne journée à tout le monde.